BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Au programme de cette émission, Artefact, une agence de conseil en stratégie digitale qui vient de lever 15 millions d'euros après avoir fusionné avec NetBooster. On en parlera avec le patron monde d'Artefact, Guillaume de Roquemorel, qui sera avec nous sur ce plateau. Paris fait-elle vendre? Les tournages publicitaires ont nettement augmenté l'an dernier à Paris. Ça repart également très fort dès le mois de janvier. Décryptage avec Michel Gomez, délégué de la mission cinéma à la mairie de Paris, et Arnaud Ribaud, directeur marketing et vente monde de DS Automobile, qui a choisi Paris pour égérie. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Yvon Martin, c'est le directeur marketing et commercial d'ING Direct France. HebdoCom, ça commence maintenant, comme chaque semaine, avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, j'ai le plaisir de retrouver Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Alors cette semaine, la grosse actu, j'ai envie de dire, c'était les Hits d'Or, cérémonie orchestrée justement par CB News, qui récompense les agences, les campagnes, les meilleures créations de l'année. Et Marie Valogne a assisté à la cérémonie depuis le pavillon Haussmann à Paris.
Meilleure maison de prod, meilleur réalisateur, meilleur photographe. Au total, 25 trophées ont été décernés. 11 jurys ont récompensé la quintessence de la publicité. Et la meilleure agence en pondéré cette année, c'est Fred et Farid. Lionel Benbassa, directeur général de l'agence à Paris.
Ce prix aujourd'hui, il récompense les idées sous toutes leurs formes, qu'elles soient mises en œuvre dans la publicité ou dans la manière de développer les business. Notre agence, notre réseau, mais aussi le business de nos clients.
Autre agence à l'honneur, BETC, primée pour la 18e fois meilleure agence de l'année. Stéphane Sibéras, son président.
C'est une récompense sur tous les jours. En fait, tout le boulot qu'il y a derrière, nous on se rend pas compte quand il y a une remise de prix comme celle-là, mais c'est des heures carrées à discuter, des réunions à n'en plus finir, des tests, des post-tests pour arriver voilà, à des campagnes qu'on regarde en 30 secondes. C'est toujours un peu étonnant.
Et c'est une campagne vue près de 9 millions de fois sur Facebook qui a remporté la 5e étoile. La publicité L'amour, l'amour d'Intermarché, film de 3 minutes réalisé par l'agence Romance, un prix qui réjouit son cofondateur, Romain Roux.
Ce film a eu un formidable impact business. Donc c'est pas que la créativité qui est récompensée ce soir, ou l'audace, c'est également le pouvoir des idées pour transformer le business de nos clients. Et ce film fait gagner des parts de marché à Intermarché. Tout ce qu'on fait pour eux fait gagner des parts de marché Intermarché, donc ça récompense également ça.
Preuve qu'une publicité long format est parfois un investissement bien plus efficace qu'un format court, et surtout quand il est bien réalisé.
Frédéric, BETC primé pour la 18e fois, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de renouvellement dans les agences de pub, Frédéric?
Si, il y a du renouvellement. D'ailleurs, on voit bien, Romance a gagné la 5e étoile, c'est-à-dire le meilleur prix de l'année. Ce qui est vrai, c'est que BETC, c'est la plus grande et la plus créative des agences françaises, c'est une agence de niveau mondial, et donc en effet, c'est une agence qui surplombe pas mal le métier, mais on encourage chaque année les autres à la challenger, et ils y arriveront un jour, moi je suis confiant.
Alors, je vous taquine Frédéric, on passe à la suite.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Guillaume de Roquemorel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes PDG Monde d'Artefact, agence de conseil en stratégie digitale. Je disais que vous êtes une agence basée sur la data et l'intelligence artificielle. C'est deux mots qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Alors concrètement, c'est quoi votre boulot?
Oui, alors nous, notre travail, c'est d'aider les annonceurs, donc les directeurs marketing, à mieux appréhender leurs métiers traditionnels, qui sont l'achat d'espaces publicitaires, l'optimisation de leurs dépenses médias, la créativité, évidemment, et tout ça en utilisant les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui, qui sont la data et l'IA, qui est un atout très prometteur pour l'avenir.
Alors, j'ai vu que vous étiez né de la fusion de deux structures en 2015, Augusta Consulting et Little Big Data, et là, vous êtes payé, je crois que c'était au mois de juin, le luxe d'avaler une structure cotée, donc plus ancienne que vous, parce que je crois qu'elle avait 20 ans d'existence, qui s'appelle NetBooster. Comment est-ce que vous avez réussi à faire un truc pareil?
Oui, alors c'est une histoire effectivement un peu incroyable. Alors on a avalé, je pense que c'est un mot un peu fort, hein, c'est une fusion.
Au final, c'est votre nom qui reste. Hein.
Et c'est notre nom qui reste. Et effectivement, on a pu aussi prendre le contrôle des différents organes de gouvernance. Donc oui, c'est une histoire un peu incroyable. Je crois que des fusions, il n'y en a pas beaucoup dans ce secteur. On parle beaucoup de rachats. Il y a beaucoup de sociétés qui meurent aussi un petit peu. Et donc, c'est un alignement de planète assez étonnant. Je crois que NetBooster avait besoin d'un renouvellement managérial, d'un renouvellement actionnarial, et il leur manquait un peu ses compétences sur la partie conseil et la partie data science. Et de la même façon, je crois que NetBooster répondait aussi à tous les enjeux et les challenges d'Artefact, hein, qui était l'internationalisation, qui était d'avoir une assise plus forte pour servir des grands clients. Et donc cet alignement de planète s'est traduit par cette belle histoire.
Frédéric.
Vous avez levé aussi 15 millions d'euros récemment. Vous avez de grandes ambitions. Et manifestement, le marché vous craint, en tout cas vous respecte. Vous vous arrêtez où? L'idée, c'est qu'à la fin, vous fassiez racheter par d'autres?
Écoutez, on verra. Je ne sais pas, je ne lis pas dans le marc de café. Mais en tout cas, oui, on a présenté au marché financier un plan de croissance très ambitieux, puisqu'on a prévu de doubler la taille du groupe à horizon 2020, donc c'est demain, de passer du coup de 50 millions de marge brute à une centaine de millions, tout ça en organique. Évidemment, ça nécessite des financements, donc on est allé sur les marchés financiers pour chercher une partie de ces financements. Les marchés ont très bien réagi, hein, puisqu'on a levé 15 millions et demi pour un peu plus de 40 millions de demandes, donc il y avait un appétit très fort pour notre histoire. Et par ailleurs, cet argent va aussi nous permettre de pouvoir être opportuniste sur des acquisitions et de pouvoir intégrer des pépites à notre offre.
Et c'est quoi vos arguments par rapport aux autres? Parce que vous n'êtes pas les seuls quand même sur ce marché-là, de la data, de l'IA, etc. Qu'est-ce qui fait que Artefact est meilleur, ou en tout cas, que les autres?
Je crois qu'en fait, il y a un des symptômes très forts là des dernières années dans le monde du digital, ça a été une espèce de siloïsation des agences. Hein. Donc, vous avez une agence de créativité pour la télé, une agence de créativité pour le digital, une agence média online, une agence média offline, une agence data, une agence conseil. Enfin, il y a eu une multitude d'acteurs, et je pense qu'on arrive à un moment où en fait, il faut reconsolider. Et notre force, on est une boîte de services, donc ce qu'on vend, c'est de la culture. Notre force, c'est d'avoir très très tôt fait travailler ensemble des équipes de conseil qui regardent l'impact business de nos actions chez nos clients, des équipes de data science qui donc sont plutôt des scientifiques, des équipes maintenant médias qui sont des experts des canaux médias. Et donc, d'avoir réussi à faire bosser ces gens ensemble, je pense que c'est ça l'ingrédient du succès. Et d'ailleurs, on voit quand même que l'ensemble du secteur va vers cette direction avec les grands acteurs du monde de la com, Publicis, WPP, qui rachètent des entreprises technologiques. Et de l'autre côté, les grands acteurs du conseil technologique, Accenture, qui redescendent en achetant des boîtes de médias et de créativité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaye d'aller là où Artefact est positionné, et on espère pouvoir tirer notre épingle du jeu de cette nouvelle dynamique.
Vous qui utilisez beaucoup la data, la future réglementation européenne sur la protection des données personnelles, ça vous inquiète? Ça vous inspire quoi?
Alors pour nous, en réalité, c'est vraiment une opportunité, hein, puisque cette nouvelle réglementation, elle va un peu contrôler, mais elle va aussi forcer, je pense, les annonceurs et l'ensemble de l'écosystème à plus de transparence auprès de leurs clients. Et donc, ça veut dire la transparence, ça veut dire savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, l'expliquer aux consommateurs. Tout ça, c'est des enjeux que nos équipes de conseil relèvent tous les jours. Donc, c'est plutôt une opportunité.
Et l'IA, vous avez organisé ces derniers jours une nuit de l'IA qui a été assez remarquée. L'IA comme argument, instrument publicitaire, ça a un avenir? Comment est-ce que ça va fonctionner?
Oui, je crois que l'IA, c'est un...
L'intelligence artificielle,
effectivement, ça va perturber et changer tous les secteurs. Hein, et le marketing n'en sera pas épargné plus qu'une autre pratique. Je pense que l'IA, c'est aussi une très très belle opportunité de remettre la relation client au cœur de ce que sont les marques. Je pense que depuis quelques années, elles avaient un peu perdu cette capacité à discuter, à converser avec leurs clients. Un des dispositifs phares qu'on voit ces derniers temps sur l'intelligence artificielle appliquée au marketing, c'est les dispositifs vocaux.
Ouais.
Donc Google Home qui est sorti en France.
Mais justement, la créativité là-dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez pour Monoprix, vous allez faire parler Alexa ou ses équivalents comme si elle était Monoprix, différemment de si elle était Intermarché?
Exactement. Alors Monoprix, c'est un bon exemple puisque c'est effectivement un des dispositifs qu'on a pu construire pour la sortie de Google Home. Et là, il y a un enjeu très fort parce que quand vous êtes dans un magasin, vous voyez des images, vous avez une ambiance, vous voyez des rayons bien achalandés. Quand vous êtes en discussion avec une petite borne en plastique, c'est plus compliqué de faire passer la marque.
On va en continuer d'en parler avec Simon Tellenbaum dans un instant de ces enceintes connectées. Merci Guillaume Roch de Roch-Morel, PDG Monde d'Artefac.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Comme je le disais, on va poursuivre cette discussion autour des enceintes connectées avec Simon Tellenbaum de BFM Business. Bonjour Simon.
Bonjour.
C'est vrai que Apple là se lance sur un marché qui est déjà bien occupé par Google et par Amazon. Et c'est vrai que ça va forcer aussi le marketing, les annonceurs à s'adapter à tout ce qui est vocal en fait.
Oui, ça devient déjà un sujet assez sérieux pour les annonceurs. JP Morgan par exemple était le tout premier il y a quelques jours à désigner une agence spécialement dédiée à sa stratégie vocale. On a d'autres très grands annonceurs comme Procter & Gamble qui ont déjà entamé des discussions avec Amazon. On en est au stade de savoir comment est-ce qu'on va intégrer de la publicité dans ces assistants vocaux. Alors l'idée, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas de diffuser des spots de pub comme à la radio qui viendraient interrompre la conversation avec l'assistant. Ça, les fabricants d'enceintes sont totalement contre, mais plutôt de faire payer les annonceurs pour être cités dans ces réponses sous forme de suggestions ou de recommandations.
Mais alors comment est-ce que concrètement est-ce qu'on va mettre de la pub dans ces requêtes vocales,
quoi ? C'est tout l'enjeu des discussions qui ont lieu en ce moment entre les annonceurs et les fabricants, parce que avec la voix, la première proposition de l'assistant vocal prend beaucoup plus d'importance que dans un moteur de recherche où on peut avoir plusieurs réponses à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on imagine mal pour l'instant les fabricants d'enceintes accepter de faire payer un annonceur pour arriver systématiquement en premier lors d'une réponse, parce que le résultat serait plus forcément pertinent et ça pourrait gêner l'utilisateur. Donc non, on imagine plutôt une intégration un peu plus subtile sous forme de recommandations, d'intégration. Par exemple, si un utilisateur fait l'achat d'une lessive, eh bien l'assistant peut suggérer un produit associé comme un assouplissant. On peut avoir une marque de chocolat qui va être citée au cours de la lecture d'une recette. Ou mieux encore, les marques peuvent sponsoriser des compétences de l'intelligence artificielle. Vous demandez à l'assistant comment nettoyer une tâche, et bien là on va vous expliquer comment le faire. Et cette explication sera sponsorisée par une marque. On vous proposera une marque en particulier pour nettoyer cette tâche. C'est pour ça que les marques sont très incitées en ce moment à développer leurs propres applications pour les enceintes connectées, des applications de services. Si on revient à l'exemple de JP Morgan, on peut imaginer un client qui va demander évidemment combien il reste sur son compte. Mais avec l'intelligence artificielle, ça peut aller plus loin. Il peut lui demander combien est-ce que je peux dépenser la semaine prochaine, pendant combien de temps je dois économiser pour m'acheter cette maison. Et évidemment, l'intérêt pour les annonceurs ensuite, ça va être de se battre, de faire de la pub pour promouvoir les intelligences artificielles qu'ils ont réussi à développer.
Et on a une idée de combien ce marketing vocal pourrait peser là dans les prochaines années, Simon ?
Là, il est un peu tôt. Pour l'instant, on n'a pas d'estimation chiffrée. On sait juste qu'il y a, alors aux États-Unis, plus de 35 millions d'utilisateurs d'enceintes connectées déjà, et plus de 60 millions si on rajoute l'usage des assistants qui sont sur les smartphones. Et puis, il y a une prévision qui est vraiment intéressante. Des cabinets d'experts qui pensent que dans quelques années, 2 ou 3 ans, entre un tiers et la moitié des recherches sur Internet, de tout l'Internet, seront effectuées par la voix. Et c'est vraiment un gisement auquel les annonceurs ne peuvent pas renoncer.
Merci Simon Tellenbaum.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Le zoom du jour autour de la marque Paris. Est-ce que Paris fait vendre ? On en parle avec Michel Gomez, délégué de la mission cinéma à la mairie de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Arnaud Ribaud, directeur marketing des ventes et ventes monde d'EDS Automobile. Bonjour.
Bonjour.
Michel Gomez, 227 films publicitaires tournés à Paris en 2017, 118 photos publicitaires prises. Qu'est-ce qui attire autant les marques dans notre belle capitale ?
Je pense que Paris, c'est une diversité de décors, c'est une certaine iconographie. Il y a certaines images de Paris qui font que n'importe quel téléspectateur dans le monde entier reconnaîtra immédiatement dans quelle ville il est. C'est une ville qui est très attachée à un mode de vie, donc on comprend bien que des marques de voitures, mais aussi la haute couture, les cosmétiques, aiment beaucoup cette ville pour tourner. Et on est sur une sorte de cercle vertueux, puisque les annonceurs aiment cette ville, la ville aime ses annonceurs, et la diffusion diffusion des films publicitaires dans le monde entier est un vecteur d'attractivité touristique extraordinaire.
De combien ils ont progressé là, les tournages l'année dernière ?
L'important, c'est pas uniquement de raisonner en nombre de films. Ce qui est important aussi, c'est de voir le nombre de jours de tournage. Et on a aujourd'hui, que ça soit pour les publicités ou les films de cinéma, une augmentation très importante du nombre de jours de tournage à Paris. En ordre de grandeur, vous avez aujourd'hui tous les jours à Paris une vingtaine de films qui se tournent, de cinéma, d'audiovisuel.
Une vingtaine par jour ?
Par jour.
Frédéric ?
Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et dans tout Paris, hein, c'est ça.
Oui, oui, Paris, bien évidemment, il y a l'iconographie du pont Alexandre III, mais de nouveaux quartiers, je pense au 13e, à l'avenue de France, sont aussi aujourd'hui extrêmement appréciés par les annonceurs et par les réalisateurs.
Alors, Parbel, évidemment, vous le disiez, au secteur du luxe, à la mode, au parfum, par exemple. Mais pas seulement. Par exemple, vous, chez DS, Arnaud Ribault, vous avez choisi comme ça Paris comme égérie de votre nouvelle campagne de pub. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas un acteur ou un réalisateur ou une star ?
Vous avez eu une égérie qui s'appelait Emmanuel Macron, quand même.
J'ose pas le dire.
Que vous n'avez pas embauché, quand même.
Non, mais effectivement.
Il est descendu les Champs-Élysées avec la voiture.
Le premier à avoir roulé en DS7 Crossback. Le président
c'est
de la
lui
République.
Qui vous a donné l'idée ou c'était avant?
On s'est préparé depuis 2014 à cet événement.
Ouais.
Et on a eu la chance qu'il soit OK pour rouler avec la voiture.
Et alors donc, Paris comme égérie, ça s'est imposé comment?
Paris comme égérie, parce que DS, c'est la nouvelle marque automobile premium française. Et nous, on a une ambition à long terme, c'est d'incarner le savoir-faire du luxe français dans l'automobile. Raffinement et technologie, c'est le positionnement de la marque DS. Donc l'ambassadeur qui est pour nous le plus puissant dans ce domaine, c'est bien Paris. Notre signature, c'est une marque automobile qui signe Paris. Donc elle se réfère effectivement aux codes dont vous avez parlé, qui sont des codes de luxe. Et qui nous inspire pour faire nos voitures, pour développer nos technologies et pour évidemment communiquer, comme nous l'avons fait avec cette campagne qui vient de sortir depuis dimanche dernier.
Très belle campagne d'ailleurs, avec de très belles images de nuit, notamment de Paris et de ses monuments. Comment est-ce que vous avez choisi les monuments et est-ce que ça a été facile de tourner cette campagne ?
En fait, cette campagne, elle veut exprimer l'audace et l'excellence. Parce qu'en fait, sans audace, on change pas le monde. Sans audace, on lance pas une marque automobile premium française. Mm-hmm. Et donc, l'audace, pour nous, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui aurait dû disparaître. Ouais. Donc, les obscurantistes contre les avant-gardistes.
D'accord.
La pyramide du Louvre sous Mitterrand, la même chose. Hein, le débat, vous rappelez ce débat, les obscurantistes, les avant-gardistes, et puis la Fondation Louis Vuitton aussi, avec cette référence à ce temple de l'art moderne. Donc, je dois remercier Monsieur Gomez, parce que grâce à lui et ses équipes, on a pu tourner dans des lieux exceptionnels. Tour Eiffel, Fondation Louis Vuitton, Place des Vosges, avec un garde républicain. Et d'ailleurs, vous savez qu'Emmanuel Macron, quand il est allé en Chine, a offert...
Un cheval de la garde républicaine, absolument.
Et ça, on ne le savait pas, je vous garantis.
Voilà, il aurait pu offrir une DS. Et ça a été compliqué, ce tournage, en pleine nuit, dans Paris. Il faut, au niveau des organisations, des autorisations, du dérangement, peut-être Place des Vosges, des gens qui dorment.
Alors, il faut bien s'organiser. Donc, on a les autorisations des services qui prévoient, donc, nous avons, évidemment, un cahier des charges à respecter, en termes de bruit, en termes d'occupation du sol. Et ça s'est bien passé. C'était au mois de septembre. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était incroyable. On a eu un soir avec 100 km/h de vent dans Paris, ce qui nous a pas forcément aidé.
J'imagine.
Et on a vécu des moments exceptionnels, comme la Tour Eiffel, qui s'allume et qui s'éteint 3 fois dans la nuit pour notre tournage.
Pour le tournage.
Un moment inoubliable pour toutes nos équipes et pour nous, surtout que, c'est un peu historique, hein, DS7 Crossback, c'est la première voiture de deuxième génération DS. Mmh. Le lancement d'une marque automobile, donc voilà, c'est assez fort quand même. Émotionnellement, c'est très fort.
Michel Gomez, comment est-ce qu'on fait pour attirer autant de tournages à Paris ? Est-ce qu'il y a une politique véritablement derrière ?
La meilleure politique pour attirer des tournages, c'est la politique du résultat. Plus on tournera à Paris, plus d'autres auront envie de tourner, puisque les images de Paris auront été diffusées. Donc c'est la qualité de service, hein. On est une administration, mais on doit produire une qualité de service auprès des professionnels. Cette qualité de service, c'est rendre les choses possibles, tout en respectant l'équilibre entre la vie des riverains et les tournages. C'est la complexité, mais on s'y attache. Et c'est la culture de résultat qui fait que de plus en plus de productions, cinéma, pub, viendront tourner à Paris.
Frédéric.
Généralement, les lancements de voitures se font assez souvent dans les villes, j'ai remarqué ça, mais généralement dans des villes complètement désincarnées, ce que c'est très difficile de savoir si c'est Paris, Rome ou Berlin. Là, vous avez vraiment choisi clairement que ce soit une ville qu'on reconnaisse, c'est parce que c'est important à l'étranger aussi que DS soit reconnue comme une marque française, parisienne pour les...
Alors c'est très important en France et à l'étranger d'ailleurs. Effectivement, cette campagne, elle va faire le tour du monde, puisqu'elle va passer en Argentine, au Chili, en Bolivie.
En Chine.
Nous sommes en Iran aussi. Ouais, elle va passer en Iran, Afrique du Nord et en Chine, où on va avoir exactement la même campagne en Chine. C'est clair que la signature Paris pour DS, c'est notre image. Plus que ça, c'est un territoire. Nous, on fait des véhicules premium qui sont avec ce savoir-faire français et on veut se démarquer de, vous savez, les grands acteurs du premium, ils sont plutôt allemands.
Plutôt.
Et donc nous, on veut être clair sur notre offre. Les Allemands font leur premium et nous, on vient avec ce savoir-faire du luxe français. Vous savez, c'est différent. Mmh. Et c'est évidemment cette image
plus raffiné,
qu'on veut
plus dans la mode,
plus créatif, plus raffiné.
Merci beaucoup Arnaud Ribaud, je rappelle que vous êtes directeur marketing et vente monde de DS Automobile et Michel Gomez, délégué de la mission cinéma à la mairie de Paris.
BFM Business, Hebdocom, comme un chef.
Et pour finir, nous sommes avec Yvon Martin, directeur marketing et commercial d'ING Direct France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de lancer une nouvelle campagne de pub réalisée par l'agence Rosa Parks. Complète rupture avec votre mode de communication précédent. On est plutôt dans un film un peu hollywoodien, j'ai envie de dire. Pourquoi ce choix ?
Écoutez, on est parti d'un constat très simple, c'est que seulement un Français sur 10 est client d'une banque en ligne aujourd'hui. Et c'est moins que dans beaucoup d'autres pays européens. On s'est posé la question de comprendre pourquoi. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de Français voient les banques en ligne comme virtuelles, hein, sans réelle possibilité de contact humain. Et c'est peu engageant. Et il se trouve que ING Direct, depuis toujours, est une banque digitale, bien sûr, mais aussi une banque humaine qui place la relation client au cœur de sa proposition. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant à travers cette campagne. Et on le fait de manière très spectaculaire. Et sur un marché où on voit beaucoup d'écrans d'ordinateurs, beaucoup de robots, bah nous, on met en scène des conversations téléphoniques entre la banque et ses clients. Et on le fait de manière humoristique et décalée pour susciter l'attention.
Et c'est ça, c'est deux spots de 45 secondes. On va les décrire un petit peu. Il y en a un qui est plutôt en mode science-fiction, scénario catastrophe, avec quelqu'un qui a deux doigts de tomber dans un grand champ de lave, et puis l'autre inspiré plutôt d'Indiana Jones. C'est quoi le message derrière ?
Écoutez, le message, c'est que nous, on est une banque moderne et digitale, mais qu'on a une dimension humaine très forte, et qu'en toutes circonstances, que ce soit au quotidien ou quand on a besoin d'expertise, on propose, nos conseillers bancaires sont disponibles, sont là, s'investissent pour leurs clients, c'est ça qu'on a voulu dire. Donc le premier film, en fait, met en scène une situation très quotidienne où en fait on a un client qui est représenté effectivement d'une manière particulière qui perd sa carte de crédit, et vous connaissez ce moment particulier où on retrouve plus sa carte de crédit et on se dit, est-ce que je vais faire opposition, et si je fais opposition tout va devenir compliqué parce que je vais plus rien pouvoir payer, ou est-ce que je ne fais pas opposition et auquel cas je prends un risque. Donc dans ces cas-là, mais on peut appeler un conseiller ING qui va expliquer qu'on peut bloquer temporairement sa carte, débloquer si on la retrouve. Donc voilà, on a toujours chez ING les conseillers sont disponibles 75 heures par semaine pour répondre aux problèmes courants de la vie des clients.
Mais vous êtes parti de situations réelles que vos conseillers finalement rencontrent tous les jours. Alors j'ai vu que vous allez me dire, c'est vrai, vous avez même poussé le truc jusqu'à appeler les héros de vos films, si je puis dire comme ça, Sacha et Sylvain, qui sont les prénoms les plus fréquemment portés par les conseillers d'ING, c'est vrai ça ?
Sarah et Sylvain, oui, sont les deux prénoms les plus fréquemment portés par les conseillers. Et quand est venu le moment de choisir les prénoms, on s'est dit que c'est exactement ça qu'il fallait faire. Et les idées sont venues de conversations réelles. On a échangé travailler en interaction avec le centre de relations clients chez nous pour trouver les moments les plus émotionnels, en fait. Parce que quand on appelle sa banque, on a tous très envie de gérer nos affaires bancaires.
On les appelle
autonome.
Quand ça va pas bien, en fait.
On les appelle soit quand ça va pas bien, ouais. c'est ce que montre l'un des films, soit quand on a besoin d'expertise, et c'est ce que montre le deuxième film. Quand on est sur un projet très impliquant, comme l'achat d'un appartement ou d'une maison, et qu'on a besoin d'un crédit pour ça, et ben là, on peut pas simplement se retrouver seul face à son écran de téléphone ou son écran d'ordinateur, ou face à un robot. On a envie de joindre quelqu'un qui connaît le dossier, qui sait y répondre de manière précise et efficace. Et c'est ce qu'on met en avant là.
Merci beaucoup Yvon Martin. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et commercial d'ING Direct France. Merci également à Frédéric Roy qui m'a accompagné comme chaque semaine, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.